Le journal présenté par Valentine Joubin.
Bonsoir. L'Europe sociale, la gauche en rêve depuis des années, mais elle devra encore attendre. Les 28 ont adopté aujourd'hui en Suède un pacte social des droits européens. Une vingtaine de mesures symboliques, mais pas de contraintes. Jusqu'à son dernier souffle, il aura tenu les rênes de la mafia sicilienne. Toto Riina, le parrain des parrains italiens, est mort ce matin en prison. Dans ce journal, nous entendrons l'un de ses anciens bras droits, un mafieux repenti. Paris, terre d'accueil de Saad Hariri. Après 2 semaines en Arabie Saoudite, le Premier ministre libanais doit rencontrer Emmanuel Macron demain midi. Quel rôle entend jouer la France dans cette crise diplomatique? Nous en parlerons avec l'invité de ce journal, Karim Bitar, professeur de relations internationales à Beyrouth. Dans ce journal, nous parlerons aussi du procès d'Abdelhakim Dekar qui s'est ouvert ce matin à Paris. Il avait grièvement blessé un journaliste de Libération il y a un an et menacé la rédaction de BFM TV. Et puis un loto pour sauver notre patrimoine en péril, c'est ce qu'annonce la ministre de la Culture, une vieille idée inspirée des Britanniques. Montrer que l'Europe est bien sortie de la crise et qu'elle va désormais se montrer généreuse, protectrice même avec ses citoyens. Voilà le message que les 28 dirigeants de l'Union européenne ont martelé aujourd'hui à Göteborg en Suède. C'est là que s'est tenu aujourd'hui un sommet social. Ils ont adopté un socle des droits sociaux avec la grande ambition d'établir un marché du travail le plus juste et le plus efficace possible, comme un antidote à la vague d'euroscepticisme qui progresse sur notre continent. Sauf que sur les 20 mesures prévues, c'est l'IAQI. Elles sont surtout symboliques.
Emmanuel Macron a tenté toute la journée de défendre une Europe sociale, mais ce socle des droits sociaux reste théorique et non contraignant. Pas question, par exemple, de définir un SMIC européen. Le président milite plutôt pour un salaire minimum adapté au niveau économique de chaque pays.
Actuellement, 22 des 28 pays de l'Union ont un salaire minimum, mais dans 10 pays, ce salaire n'atteint pas 50% du salaire médian. Donc la situation actuelle n'est pas satisfaisante d'un point de vue social et nous ne devons pas nous y tromper.
Sauf que les autres États, notamment des pays de l'Est, freinent sur cette question. Pas facile pour le président français qui réclame aussi davantage de convergence sur la fiscalité.
Sur la fiscalité, les taux sont aujourd'hui très différents. Nous appliquons d'ailleurs à la France une stratégie de convergence vers la moyenne de la zone euro en baissant l'impôt sur les sociétés vers la moyenne. Il y a des pays qui sont aujourd'hui très bas. Je pense que ça n'est pas sain dans la durée et qu'il nous faudrait encadrer les taux dans un corridor. Peut-être à un moment donné, au premier semestre prochain, un sommet fiscal s'imposera. Je ne voudrais pas qu'on oublie aussi les sujets de convergence environnementaux.
Ce sommet était donc surtout symbolique, même s'il marque une étape dans la construction de cette Europe sociale.
Célia Kiré, envoyée spéciale de France Culture à Göteborg, en Suède. Et alors que les dirigeants européens sont en Suède, Carles Puigdemont, le leader séparatiste catalan, lui, est toujours à Bruxelles, en liberté. Mais jusqu'à quand? Le parquet belge a requis tout à l'heure l'exécution du mandat d'arrêt européen contre lui et 4 membres de son gouvernement. Mandat qui avait été lancé par l'Espagne. Pas de décision du juge aujourd'hui. Une nouvelle audience aura lieu le 4 décembre. Au Zimbabwe, Robert Mugabe a fait probablement son dernier tour de piste aujourd'hui. 3 jours après le coup d'état de l'armée, le président, pourtant toujours placé en résidence surveillée, est apparu en public ce matin. Mais les appels à sa démission se multiplient, y compris au sein même de son parti, la ZANU-PF. Elle organise demain une grande manifestation à Harare, manifestation pour saluer l'action de l'armée. Il était l'un des parrains les plus connus en Italie, celui qu'on surnommait le fauve pour sa froideur et sa cruauté, Toto Riina, l'ancien patron de Cosa Nostra, la mafia sicilienne, est mort ce matin à Parme en prison. Il avait été condamné à 26 peines de détention à vie pour avoir commandité plus de 150 meurtres. Et parmi ses bras droits, il y a Gaspare Mutolo, un mafieux qui a fini par se mettre à table et raconter son histoire au magistrat. Il a aujourd'hui 76 ans et a accepté de raconter à Mathilde Imberti ce qu'étaient les méthodes de la Cosa Nostra.
Gaspare Mutolo et Toto Riina partagent la même cellule à Palerme en 1965. Gaspare apprécie le charisme de Riina, son intelligence. Il était le seul à me battre aux dames, raconte-t-il.
Pour moi, il n'était pas le boss des boss, c'était un ami. Il m'a sauvé la vie en m'indiquant avec qui je devais me placer. Il préparait la disparition de toutes ses familles ennemies.
Sorti de prison, Gaspare devient chauffeur de Riina et s'engage franchement dans Cosa Nostra. Il commet une 20aine d'homicides dont il a du mal à parler aujourd'hui.
C'est douloureux parce que quand on regarde les gens dans les yeux et qu'ils ont la corde au cou, c'est la terreur qu'on lit dans leur regard.
Écœuré par la tournure que prend Cosa Nostra, Gaspare se confie au magistrat en 1991, au juge Falcone en particulier, qui sera tué.
Quand je séquestrais des personnes personnes pour de l'argent. Je n'ai jamais touché aux femmes et aux enfants. Les palermitains ne faisaient pas ça. Ce pacte, Rina l'a rompu. Et dans son euphorie, il a lancé les massacres des années 90.
Interrogé sur la succession de Toto Rina à son ancien compagnon, 76 ans aujourd'hui, explique très calmement que les familles palermitaines, entre elles, décideront d'un nouveau nom.
Un reportage signé Mathilde Imberti, correspondante de France Culture en Italie. Saad Hariri, attendu à Paris dès ce soir. Le Premier ministre libanais démissionnaire doit s'entretenir demain midi avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Il doit rester quelques jours en France avant de rentrer dans son pays d'ici quelques jours ou quelques semaines, a indiqué le président tout à l'heure. Saad Hariri était depuis deux semaines en Arabie Saoudite, retenu de force selon la présidence libanaise. En lui offrant l'hospitalité, la France se place ainsi comme le médiateur indispensable, le pays qui cherche une sortie de crise. C'est en tout cas l'analyse de Karim Bita, professeur de relations internationales à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Il est notre invité et il est interrogé par Valérie Crovard.
C'est une offre assez habile de la part de la diplomatie française et d'Emmanuel Macron. Il s'agit de permettre aux Saoudiens de sauver la face après qu'ils aient peut-être poussé un peu trop loin leur avantage sur le terrain libanais en pensant qu'ils allaient provoquer une vaste réaction. Du côté de Saad Hariri, cela lui permet également de donner le sentiment qu'il est libre de ses mouvements, que les Saoudiens ne le retiennent pas en otage comme il en était accusé par ses adversaires. Mmh. Donc du côté de la France, c'est un assez joli coup diplomatique. Cela dit, les Iraniens commencent à estimer que la France est un peu trop alignée sur les positions saoudiennes et ils viennent de publier un communiqué assez sec à ce sujet.
L'Élysée a quand même cru bon de démentir que la venue de Saad Hariri en France soit un exil.
Alors, ce démenti est en effet assez étonnant. À vrai dire, le problème est plus profond que cela. Il est organiquement lié à l'Arabie Saoudite de par ses affaires qui s'y trouvent, de par sa famille, de par son courant politique qui est très proche de l'Arabie Saoudite. Donc, quand bien même il serait entièrement libre de ses mouvements, il ne pourrait pas ignorer les désidératas de l'Arabie Saoudite sur la scène régionale, pas plus que le Hezbollah ne peut ignorer les ambitions de son parrain iranien.
Il se dit d'ailleurs que Saad Hariri aurait mécontenté le prince héritier saoudien MBS en étant lié en affaires avec l'un des princes qui a été mis aux arrêts lors de la purge qui a été entreprise par le prince héritier.
Il y a en effet énormément de rumeurs qui circulent et il y a fort à parier que les affaires de politique intérieure saoudienne ont considérablement influé sur leur position sur le dossier libanais. Cela dit, les Saoudiens reprochaient aussi et surtout à Saad Hariri sa position jugée trop conciliante envers le Hezbollah et ils auraient aimé une personnalité tranchante, prenant des positions beaucoup plus fermes sur la scène intérieure libanaise.
Il va travailler à une feuille de route avant son retour au Liban pour consolider une sortie de crise. Quels sont les scénarios possibles selon vous ?
Alors, le scénario qui est envisagé à ce stade serait celui d'une renégociation du modus vivendi. Le Hezbollah ferait de légères concessions, notamment en promettant d'interférer un peu moins dans les affaires yéménites. Les Saoudiens reprochaient au Hezbollah d'avoir soutenu, en envoyant quelques conseillers militaires et experts, la rébellion des Houthis au Yémen. Donc, cela serait l'hypothèse plutôt optimiste, celle d'un retour à un compromis sur la scène intérieure libanaise. Une autre hypothèse serait celle d'une radicalisation sunnite sur instigation de l'Arabie Saoudite et à ce moment-là, il faudrait trouver une personnalité un peu plus radicale que Saad Hariri qui pourrait un peu remettre le camp saoudien en ordre de marche et prendre des positions beaucoup plus fermes. On irait donc vers une longue crise institutionnelle avec le Hezbollah.
Est-ce que Saad Hariri a réellement les moyens de faire pression sur le Hezbollah pour contenter les Saoudiens ?
Non, justement, sa marge de manœuvre est assez étroite. Le Liban était passé par une période de vacances présidentielles qui a duré près de 2 ans, précisément parce que le Hezbollah avait placé la barre assez haut et exigé un grand nombre de concessions. Saad Hariri, souhaitant redevenir Premier ministre, il avait accepté la plupart des conditions du Hezbollah, ce qui a permis de porter à la présidence de la République Michel Aoun, allié au parti pro-iranien. Par la suite, Saad Hariri n'a pas été en mesure d'obtenir énormément de concessions. Le Hezbollah continuait de contrôler la plupart des rouages de l'État libanais et c'est cela qui a exaspéré les Saoudiens. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui le camp saoudien est en meilleure posture pour renégocier cet accord sur la scène libanaise. Comme un peu partout à l'échelle régionale, les alliés de l'Arabie saoudite sont moins bien organisés, ne sont pas en ordre de marche, alors que les alliés de l'Iran font preuve d'un assez grand professionnalisme, quand bien même seraient-ils assez cyniques.
Qu'est-ce qu'il se joue, Karim Bitar, derrière la démission de Sadr Hariri? Est-ce que c'est uniquement une lutte hégémonique entre l'Arabie saoudite et l'Iran?
Je pense que les deux facteurs principaux sont effectivement cette guerre par procuration que se livrent l'Iran et l'Arabie saoudite sur plusieurs terrains régionaux, le Liban, la Syrie, l'Irak, le Yémen. Mais le deuxième facteur tout aussi significatif est probablement la crise d'envergure que traverse l'Arabie saoudite, avec la volonté de Mohamed Ben Salman de consolider son pouvoir, d'accélérer son accession au trône et sa volonté de purger la plupart des princes qui ne lui sont pas directement inféodés, qui ont une assise financière ou éventuellement sociale ou politique qui leur donnerait une certaine indépendance par rapport à lui. Donc Saad Hariri s'est trouvé un peu otage de ces deux crises, la confrontation régionale avec Téhéran et la confrontation interne à l'Arabie saoudite.
Karim Bitar, professeur de relations internationales à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, il répondait à Valérie Crova. C'était il y a un an, presque jour pour jour, le 15 novembre 2016, un homme avec un fusil à pompe rentre dans les locaux de BFM TV et menace un rédacteur en chef. Trois jours après, il se rend dans les locaux de Libération et tire sur un photographe, le blessant grièvement. Puis il tire sur l'immeuble de la Société Générale. Abdelhakim Dakar sera finalement arrêté au bout de 5 jours. Son procès s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises de Paris. Un accusé aux propos assez confus, Florence Sturm.
C'est un homme d'apparence tranquille, taille moyenne, cheveux grisonnants et frisés, crâne dégarni, sans grande ressemblance avec la photo issue des images de vidéosurveillance qui avait fait la une des journaux lors de la traque policière de novembre 2013. Abdelhakim Dakar a refusé l'expertise psychiatrique, refusé aussi de parler à l'enquêtrice de personnalité à Fleury Mérogis parce qu'il considérait qu'elle travaillait pour l'État. Aujourd'hui, vous êtes disposé à parler de vous, interroge le président de la Cour. Je veux bien, répond l'accusé. Depuis, j'ai fait un long travail d'introspection. Et il se lance dans un grand monologue, logoré souvent confus et heurté. J'ai grandi dans l'Est de la France dans les années 80. J'ai vécu les grèves générales dans la sidérurgie. J'ai vu des policiers et des gendarmes refuser d'obéir. Ça m'a construit. Il s'appuie sur la vitre du box. En tant qu'indigène de la République, j'ai essayé d'échapper au déterminisme social et historique. En 83, il participe à la marche des beurs, baptise son fils Manoukian en hommage aux résistants arméniens, cite Frantz Fanon et Pierre Bourdieu, explique avoir travaillé pour les services secrets français et algériens. Le président s'en étonne. J'ai fait le choix du moins pire, reprend Abdelhakim Dakar. Le danger le plus important pour moi, c'était le fascisme islamiste et j'ai donné un coup de main. Sur les faits aussi, il intellectualise ses réponses. J'ai commis quelque chose d'irréparable, je le reconnais, mais il faut dissocier l'homme que j'ai été et ses faits constitutifs d'une désespérance. J'ai confondu, dit-il, mon désespoir avec ma pensée politique.
Le procès d'Abdelhakim Dakar, suivi pour France Culture par Florence Sturm. Il nous promettait des solutions innovantes pour financer la protection du patrimoine. C'est finalement une vieille idée d'une dizaine d'années qui a été retenue par l'Élysée et le gouvernement, un tirage spécial du loto qui sera tiré l'an prochain pour les journées du patrimoine. Et les recettes n'iront pas dans les caisses de l'État mais seront reversées à la fondation du patrimoine. Une méthode chère aux Britanniques mais dont Bercy ne voulait pas jusqu'ici. C'est ce que nous explique le maire d'hiver droite de Versailles et ancien directeur de la fondation du patrimoine, François de Mazières. Il se félicite de ce changement de politique mais aimerait que l'on n'oublie pas les petites communes.
Le fameux l'histoire elle est simple, si vous voulez, c'est que la loterie, ça rapporte beaucoup d'argent à l'État. Et que l'État, évidemment, n'a pas envie de perdre cette richesse supplémentaire qui alimente le budget général. Donc Bercy a toujours été très opposé à ce type d'extension des jeux de la loterie au patrimoine. Donc jusqu'à présent, ça fait une dizaine d'années que je me suis battu sur ce sujet, on n'avait pas eu gain de cause, donc c'est bien que ce projet-là puisse aujourd'hui voir le jour. Ce que je dis, c'est qu'il y a une menace particulière qui vient de la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales et que ce sont les communes qui sont les premiers investisseurs pour le patrimoine. Et là, je fais une autre proposition, c'est que puisque l'État est en train de réfléchir sur des politiques de contractualisation avec les communes, eh bien voilà une thématique qui pourrait être mise en œuvre. Les communes qui font des investissements importants pour restaurer tel ou tel bâtiment à caractère historique et patrimonial pourraient se voir moins sanctionnées pour la baisse des dotations.
On termine par quelques mots de météo, des nuages et de la grisaille au nord, du soleil dans le sud-est et dans le sud-ouest. Il va faire très froid dans le nord avec pas plus de 4 à 5 degrés, 6 à 12 dans une large partie du pays, 16 à 18 en bordure de Méditerranée. 22h16 sur France Culture, ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau et Alex Dang à la technique. Tout de suite, matière à penser avec Serge Tisseron.